L'histoire de la Pentecôte. Première partie. Nous allons parler de notre histoire, celle du mouvement pentecôtiste. Sachez d'abord que le grand réveil de la Pentecôte qui a touché les quatre coins du monde ces 120 dernières années n'est arrivé ni par hasard ni tout seul. Non seulement il avait été prévu de Dieu et prophétisé dans sa parole, mais beaucoup de choses sont arrivées au fil des siècles pour mettre au monde ce phénomène que nous avons connu pour nous-mêmes. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce que l'Église primitive a vécu et ce que l'Église de la Pentecôte moderne vit? Bien sûr, nous avons une réponse à travers l'histoire officielle, celle promue par l'Église catholique romaine, mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Qu'est-ce qui nous permettrait de savoir que Dieu a toujours eu un peuple? Un peuple qui n'a jamais plié devant les déformations de la bonne et saine doctrine prêchée par les apôtres de Jésus-Christ. Et finalement, le grand mouvement de la Pentecôte de ces derniers jours, comment a-t-il vu le jour? Afin d'avoir un point de départ et afin de voir l'histoire de l'Église dans son ensemble, commençons en parlant de ce que l'Église primitive a vécu. Donc l'Église dans le livre des Actes des Apôtres. La naissance de l'Église du Nouveau Testament n'a pas eu lieu dans les nuages quelque part, là où les anges jouent sur des harpes. L'Église n'est pas née dans une cathédrale sous la splendeur des vitraux brillants de couleurs. L'Église du Nouveau Testament est née dans le feu, le jour de la Pentecôte. Et dans le feu, elle est restée pendant les trois premiers siècles. Je me demande si Jean-Baptiste réalisait vraiment ce qu'il disait quand il a dit de Jésus « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu ». Ce feu était le zèle, l'onction et la foi enflammée qui accompagnaient les chrétiens de l'Église primitive. Par ce feu, ils ont ébranlé les quatre coins de l'Empire romain. Ils avaient reçu quelque chose qui allait au-delà de la tradition et ils le savaient. Tout d'abord, les chrétiens, au temps des apôtres, étaient bien ancrés dans la croyance de l'unicité de Dieu. Donc, que Jésus soit Dieu manifesté en chair, ne faisait aucun doute pour eux. Après tout, ils étaient tous juifs et stricts monothéistes. L'idée qu'il y ait plusieurs personnes dans la divinité est issue de Rome, et cela n'est apparu que plusieurs siècles plus tard. Donc ils avaient été avec lui, ces premiers chrétiens, et ils avaient un message pour le monde. Leur message n'a jamais changé, ils ne faisaient aucun compromis. Ils prêchaient la nécessité de la repentance et du pardon divin. Ils baptisaient dans l'eau par immersion au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Ils recevaient le baptême du Saint-Esprit en parlant en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils se séparaient entièrement des choses charnelles, mondaines et pécheresses. Et le Seigneur confirmait la parole par des miracles, les signes et les prodiges qui les accompagnaient. Le christianisme apostolique était un vent. C'était un feu. Cela faisait trembler. Les chrétiens de cette époque étaient remplis d'une puissance, mais pas celle qui vient de l'homme. Ils étaient remplis d'une puissance qui venait de Dieu. Le christianisme apostolique était l'ombre d'un apôtre rempli de l'esprit qui, en passant au-dessus des malades, des boiteux et des aveugles, les guérissait. Le christianisme apostolique était une prison visitée par un ange. C'était Paul et Silas qui chantaient des louanges au Seigneur jusqu'à minuit et une porte de prison qui s'est ouverte grâce à un tremblement de terre. C'était un païen qui avait été visité par un ange et qui a envoyé chercher Pierre afin qu'il vienne dire ce qu'il faut faire pour être sauvé. Le christianisme apostolique était des païens qui recevaient le baptême du Saint-Esprit dans leur maison. C'était un homme enchaîné devant le roi Agrippa dont le témoignage a fait dire « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien ». L'ironie de ceci, c'est que Paul enchaîné était l'homme libre. Le roi sur son trône était celui emprisonné. La prédication de ces apostoliques était de nature à secouer tout. Là où ils allaient, il y avait soit le réveil, soit la révolte. Ils prêchaient sans crainte. Donc ils avaient reçu le Saint-Esprit et ils savaient de quoi ils parlaient. La nouvelle naissance les avait complètement changés. Et dès lors, ils avaient une relation personnelle avec le Seigneur, dont l'Esprit demeurait en eux et faisait son œuvre au travers d'eux. Vous voyez certainement comment l'Église primitive était remplie de feu. Le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre prêchait aux gens dans la rue, à ceux qui se renseignaient sur ce qui venait de se passer dans la chambre haute, il a cité le prophète Joël. C'est ce qu'a dit le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est écrit dans Actes 2, 16, 17. Mais ceci n'est qu'une partie de ce que Joël avait dit dans son livre sur l'effusion du Saint-Esprit. Regardons ensemble dans Joël 2, au verset 23, il dit « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de moue et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasirez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Si la pluie de la première saison a été destinée à l'Église apostolique primitive, la pluie de l'arrière-saison est destinée à celle des derniers jours. La pluie de la première saison tombait en Israël au printemps et à cette époque-là, même celle de l'arrière-saison tombait au temps de la moisson. Nous sommes aujourd'hui dans le temps de la moisson. Jésus revient bientôt. Je vais vous dire quelque chose. Si Jésus, après avoir quitté la terre, a répandu son esprit de sorte que l'Église primitive soit complètement ointe et remplie de puissance et de feu, pensez-vous qu'au dernier jour, il reviendra pour une Église qui est remplie d'elle-même, qui n'a plus faim de sa justice, qui ne connaît plus la puissance de son esprit ? Une Église qui n'a aucune vision, qui est faible, ou encore pire, qui est morte ? Absolument pas. Jésus reviendra pour une Église, la sienne, chez qui on trouvera tous les mêmes éléments qu'avait l'Église qu'il a fondée il y a 2000 ans. Étant donné que des millions de personnes ont reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue dans le réveil de ce dernier temps, il est évident que la deuxième partie de la prophétie de Joël s'accomplit. Mais qu'est-ce qui est arrivé entre les premiers siècles de l'Église apostolique et celle de nos jours ? C'est ce que l'on veut voir dans le but de mieux comprendre comment on est arrivé là. Donc, nous allons parler de la persécution et des fausses doctrines. Vous savez déjà que la persécution a fortement frappé l'Église chrétienne presque tout de suite après sa naissance. Pourtant, ce n'a pas été avant la fin du 1er siècle que les persécutions les plus importantes sont venues sur tous les chrétiens de l'Empire romain. Paradoxalement, de fausses doctrines ont aussi pu faire leur apparition en même temps. Non seulement Joël a prophétisé sur ce qui se passerait en gros, mais l'Esprit de Dieu a poussé plusieurs des écrivains du Nouveau Testament à avertir l'Église également. Il y a eu Paul, par exemple, et Pierre, mais un des avertissements les plus directs est venu de Jude, dans le verset 3 et 4, où est-ce qu'il est dit « Bien-aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. » Qu'a été le lien entre la persécution à longue durée et l'introduction de fausses doctrines dans le mouvement chrétien ? Car il y en a bien eu un, le voici. Il y a eu des apologistes chrétiens qui se sont levés et qui, face à leurs agresseurs, ont essayé à la fois de défendre le christianisme et de le présenter d'une façon qui serait plus appréciée par leurs contemporains païens, les Romains et les Grecs. Par des arguments et par la raison, ils essayaient de changer la vie de ceux qui méprisaient et persécutaient l'Église. Pour le faire, ils se sont efforcés d'assimiler les croyances chrétiennes aux philosophies grecques. Cherchaient-ils un moyen d'apaiser l'indifférence envers eux ? Est-ce la raison pour laquelle ils ont si légèrement fait des compromis avec la doctrine apostolique ? Peu importe leur but, le résultat a forcément donné place à des erreurs doctrinales. Satan était à l'œuvre d'ailleurs. Voilà ce que le grand expert de l'histoire de l'Église chrétienne Adolphe Harnack a dit à leur sujet. On ne peut pas sous-estimer l'impact que les apologistes chrétiens ont eu sur l'Église catholique et sur ses filles protestantes. Adolphe Harnack a bien eu raison. Les apologistes, eux-mêmes grecs, se sont alliés aux philosophes grecs. Ils n'étaient pas opposés à ce qui est surnaturel, par exemple au baptême du Saint-Esprit, mais ils ont très vite introduit l'idée d'une hiérarchie dans la divinité, par exemple ce qui se concertait très bien à la mentalité grecque et romaine de l'époque. Dans sa première apologie, Justin Martyr a dit au sujet de Jésus-Christ « Nous l'adorons car nous avons compris qu'il est le Fils du vrai Dieu. Nous le tenons au deuxième rang et l'Esprit prophétique au troisième. » Dans les premiers siècles, la vaste majorité des chrétiens étaient toujours unicitaires. Dans son apologie, Justin Martyr les reconnaît. Dans son œuvre, Justin parle de ceux qui affirment que le Fils est en fait le Père et il les condamne. Sachez que pour les apôtres et pour leurs disciples à eux, comme Clément de Rome, Ignace et Polycarpe, Jésus-Christ était Dieu manifesté en chair. Le premier et le dernier, le Tout-Puissant. D'où est venu l'enseignement de Justin Martyr sur la divinité et cette question de trois personnes? Il avait forcément appris cela de la philosophie grecque de l'époque des théories de Platon. Colossiens 2 nous dit au verset 8 et 9 « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Donc c'est Montanus qui, en l'an 156, a introduit l'idée de trois personnes dans la divinité. Un de ses étudiants, Tertullien, un avocat de l'Afrique du Nord, est allé encore plus loin dans cet enseignement et lui a donné le nom de Trinité. Avant la fin du IIe siècle, certains ont commencé à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au lieu de baptiser au nom de Jésus comme faisait l'Église primitive. Ceci allait main dans la main avec l'idée de Dieu en Trinité, mais il faut savoir que nulle part dans la Bible entière, une seule personne n'ait jamais été baptisée dans les titres. Peu de temps plus tard, ils se sont mis à baptiser des bébés. Faute de l'amour de la vérité, la connaissance s'est obscurcie peu à peu jusqu'à ce que le mensonge soit accepté comme vérité et que les traditions des hommes prennent la priorité sur la parole de Dieu. La descente dans l'erreur s'est faite progressivement tout comme l'avait prophétisé Joël. Dans Joël 1, versets 3 à 5, il disait « Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le hasil l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrogne, et pleurez. Vous tous buveurs de vin, gémissez parce que le mou vous est enlevé de la bouche. » On pourrait aller plus loin en tout cela, mais il suffit de dire que le mélange entre la vérité et l'erreur a commencé assez tôt dans l'histoire du mouvement chrétien. Les croyants de souche juive sont restés unicitaires. Mais le problème, c'est qu'au fil des années, ils étaient de moins en moins nombreux. Les croyants non juifs et de mentalité grecque sont devenus la majorité et comme ils avaient déjà un esprit philosophique, ils ont embrassé et promu les mêmes erreurs que leurs docteurs au prix d'une perte progressive de la présence et de la puissance de Dieu. Cela n'est pas venu tout d'un coup, mais progressivement. Donc, et nous voyons après cela, l'Église, de quelle manière elle a été persécutée. Donc, l'Église persécutée à partir du décès de l'apôtre Jean vers l'an 100. Jusqu'à l'an 313, le mouvement chrétien a connu beaucoup de persécutions. Voilà ce qui est écrit dans le supplément archéologique de la Bible Thomson, sous le sous-titre de Rome. L'Empire romain était l'empire le plus puissant et le plus étendu de l'époque de Christ. Le gouvernement de Rome était généralement tolérant à l'égard des autres religions, mais le refus des chrétiens de prêter un serment de loyauté à l'empereur entraîna à leur encontre une persécution croissante. Les chrétiens étaient accusés d'être sauvages et bizarres et ils en vinrent à se faire haïr et à se faire considérer comme des ennemis de la société. Ils s'habillaient de manière simple et modeste, vivaient d'une manière très morale et ne se rendaient jamais aux jeux ou aux fêtes. Certains chrétiens allaient même jusqu'à condamner ceux qui vendaient du fourrage pour les animaux que l'on sacrifiait ensuite aux dieux païens. Le public finit par les redouter, car les gens craignaient la colère des dieux quand on ne leur offrait pas de sacrifice. Si les récoltes étaient mauvaises, si le Tibre débordait, si des fléaux faisaient leur apparition, on criait « les chrétiens au lion ». Voilà ce qui est écrit dans la Bible Thompson, du supplément archéologique. Puisque le sujet de l'Église persécutée a déjà été suffisamment traité dans ses cours, dans ce que nous sommes en train de parler actuellement, on n'en dira pas plus ici. Donc ainsi, se termine cette première partie sur l'histoire de la Pentecôte.